Bonjour à tous, ici Lisa pour Être Bien de la Radio Girafe. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Isabelle Medelis. Isabelle est hypnothérapeute, auteure et poétesse. Et si j'ai souhaité que son témoignage prenne une place au sein d'un épisode de la Radio Girafe, c'est parce qu'elle a rencontré une maladie qu'elle nomme sa colocataire. C'est la sclérose en plaques. Pour rappel, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui provoque des perturbations cognitives, émotionnelles, motrices, sensitives ou visuelles, et survient à la suite de l'attaque du système immunitaire d'une personne contre son propre système nerveux central. C'est une maladie qui s'exprime par poussées et phases de rémission. Elle est complexe, épuisante, imprévisible, mais elle est aussi mouvante, évolutive et capable de se rendormir. Il y a 20 ans, Isabelle a commencé à avoir des fourmis dans les mains, rien d'alarmant, jusqu'au moment où son bras a commencé à se paralyser. Aujourd'hui, en 2026, après des années de traitement, de soins, de thérapie, d'apprentissage, de découverte intérieure, de choc et de guérison, sa sclérose en plaques s'est rendormie. Elle a totalement arrêté son traitement. Son histoire lui a appris que la maladie n'était pas arrivée par hasard. Elle est arrivée pour mettre en lumière des traumatismes enfouis. Pour Isabelle, la maladie a été un catalyseur des violences physiques et sexuelles qu'elle a subies lors de son enfance. Dans cet épisode, Isabelle nous partage le lien entre les souffrances du corps et de l'esprit et le chemin qu'elle a emprunté pour se reconstruire jusqu'à apaiser et soulager sa maladie pour qu'elle ne devienne qu'une vieille amie endormie. Je vous souhaite une excellente écoute, j'espère que cet échange vous plaira et vous donnera des ressources. Peut-être qu'il apportera la force nécessaire à certains pour retrouver la souveraineté face aux faiblesses de la santé du corps et de l'esprit. Et je vous souhaite un excellent moment. C'était Lisa pour la Radio Girafe. Ciao.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Lisa.
Si autant on s'est vu. Voilà, c'est ça. Si on se retrouve aujourd'hui sur la Radio Girafe, c'est par rapport à ton témoignage concernant ta maladie qui est la sclérose en plaques.
Oui.
J'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours, comment D'accord. ça s'est passé et comment t'es arrivée là où tu es arrivée aujourd'hui. Tu nous expliqueras exactement où est-ce que t'es arrivée du
oui.
coup. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous dire juste qu'est-ce que c'est un peu la sclérose en plaques? Parce que, à vrai dire, moi je connais mais sans vraiment savoir... Qu'est-ce que c'est comme maladie et qu'est-ce que ça engendre?
D'accord, qu'est-ce que ça engendre?
Ouais.
Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune donc, qui attaque la myéline. Donc, la myéline, c'est la gaine qui entoure les nerfs.
Ok.
Et donc, qui protège les nerfs. Donc, à partir du moment où il n'y a plus cette gaine, vous pouvez comparer ça à un fil électrique, tu vois. Tu as des petits câbles à l'intérieur, tu as la gaine à l'extérieur qui permet de protéger, justement, des électrocutions. Ou... Voilà, donc... En comparative, si cette gaine n'est plus présente, ça peut avoir différents impacts sur différentes parties du corps, notamment la motricité, puisque quand on parle de sclérose en plaques, souvent on imagine la personne en fauteuil roulant, c'est l'image qu'on a le plus souvent, parce que voilà, ça atteint aussi, ça peut atteindre les membres inférieurs, donc les jambes, mais ça peut aussi atteindre les yeux, les bras, les mains, créer des sensations différentes. Enfin. Oui, avoir un impact sur les sensations, c'est-à-dire que tu peux avoir des sensations de brûlure, des sensations de coupure, des sensations de pic, des sensations de chaud. Ça peut atteindre vraiment différentes parties du corps, puisque de toute façon, ça touche les nerfs.
Et c'est une maladie auto-immune, du coup, héréditaire. Comment ça se déclare? Est-ce que tu sais ou pas? Ou il y a des pistes ou je sais
Alors,
pas.
Comment ça se déclare? Alors, je pense à un Moi, je pense sincèrement que c'est un peu le cas pour finalement beaucoup de maladies, voire peut-être toutes. C'est que la déclaration, moi, ça, je sais exactement comment ça s'est déclaré. Enfin, je l'ai compris après. Ça peut se déclarer suite à un choc émotionnel.
Okay.
Il y a des femmes, alors ça touche principalement les femmes. Ça touche aussi des hommes, mais en moins grande proportion. Donc, aux alentours de 30-35 ans, même si on a des plus jeunes. Il y a des mamans qui déclarent leur première poussée de sclérose en plaques à l'accouchement, puisque l'accouchement, voilà, demande il y a des émotions très fortes, des efforts intenses, et ça peut être du coup à l'origine d'une poussée, d'une première poussée.
Ah oui, ça peut être aussi un choc physique, parce que l'accouchement, c'est un peu un choc.
Oui, c'est un peu un choc physique, mais je pense plutôt plutôt au choc émotionnel, vraiment, okay. Au choc émotionnel. Mais un choc émotionnel qui est finalement, on va dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Okay. C'est-à-dire que les émotions, on va dire, sans en avoir conscience, on a pu vivre une expérience dans le passé qui a laissé des traces émotionnelles, mmh. qui sont enfouies quelque part. La vie continue, on continue de vivre des émotions qui s'accumulent, hein, comme un verre d'eau qui se remplit. Et puis, à un moment donné, bah, il se passe quelque chose, bah, la goutte d'eau qui déborde et qui va bah, envoyer un signal au corps, le corps qui va s'exprimer. Moi, c'était la sclérose en plaques, mais ça peut être d'autres maladies. Et voilà, mais c'est vraiment pour... Bon, ça, j'en parlerai plus tard, mais j'ai compris que c'était pour que je comprenne beaucoup de choses.
D'accord.
Sur moi-même.
Et du coup, toi, tu as, pour parler vraiment purement pour l'instant de ce qu'est la sclérose en plaques,
Oui.
Toi, tu as eu des premiers symptômes, ça s'est passé comment quand c'est arrivé quand,
Alors, en fait... Les premiers symptômes, ça a été une extrême fatigue, mais sans que je sache, que j'avais une maladie à ce moment-là. Pendant 4-5 mois, avant la première poussée, j'étais souvent très très fatiguée, sans explication. J'étais allée voir mon médecin à plusieurs reprises, qui m'avait fait faire des analyses de sang, différentes choses, et il n'y avait rien, on ne trouvait rien, mais j'étais vraiment très fatiguée. Okay. Et quand je parle de très fatiguée, c'est-à-dire que vous dormez, donc je faisais des nuits normales, mais je me réveillais, j'avais la sensation de ne pas du tout avoir dormi. Je commençais à faire des siestes, j'avais la sensation de ne pas avoir fait de sieste. Donc vraiment une fatigue récurrente, intense, jusqu'au jour où un matin, voilà, en chargeant mon coffre de voiture, je chargeais des choses dans ma voiture, j'ai eu des fourmis dans les deux mains. Des fourmillements, mais rien d'alertant pour moi à ce moment-là. Des petites fourmis qui sont apparues dans les deux mains. Et une seule... Donc, les fourmis sont restées à peu près une semaine. Et au bout d'une semaine, ça a commencé quand même à m'interpeller. Je me suis dit, c'est bizarre quand même que j'ai ces fourmillements permanents, non-stop, permanents dans les mains, avec une sensation aussi de mains gonflées un peu. Donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a fait faire des examens. Et entre la période où j'ai fait ces examens et les résultats, en fait, j'ai eu ma première poussée. Donc ça a été comme une sorte de grosse, énorme décharge électrique dans tout le bras droit qui m'a pris le cœur, en fait, parce que c'était violent et soudain, surtout. Et suite à cette poussée, je n'avais plus du tout... C'était comme si on m'avait coupé le bras, en fait. J'avais plus aucune sensation dans le bras droit et dans la main.
Voilà. Okay.
Donc ça a été la première poussée. Et ensuite, il y a eu donc après les examens, etc., pour confirmer le diagnostic d'une sclérose en plaques. Ça ne se confirme pas par des analyses de sang, mais par un IRM, donc qui révèle du coup s'il y a des lésions au niveau de la moelle épinière, du cerveau. Et ensuite, ça doit être confirmé par une ponction lombaire. Voilà, le résultat d'une ponction lombaire. Donc voilà, c'est des éléments combinés qui font qu'on arrive à un diagnostic de sclérose en plaques.
Ok. Voilà. Et du coup, quand tu as su que tu étais atteinte de la sclérose en plaques, qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si je basculais dans un autre monde. Parce que j'étais maman de 4 enfants. Le dernier avait 2 ans. Donc, en fait, ça a été un choc, évidemment. Un énorme choc. De la peur, évidemment. De la tristesse. Comment j'allais faire pour m'occuper de mes enfants. Comment ça allait évoluer. En fait, c'est quelque chose de tellement soudain et inattendu. Je dirais que c'est la peur qu'elle a en premier, en fait. C'est comme si le monde s'arrêtait. Et une fois... il y a des étapes, en fait, parce que dans l'état de choc, c'est comme si on n'avait plus de pensée, plus de réaction, plus de... c'est comme un blackout, un peu. Et une fois passé cet état de sidération, etc., avec les premiers rendez-vous aussi, avec le neurologue. Et moi, j'ai eu la chance, vraiment, j'insiste, parce que j'ai eu la chance d'avoir un neurologue incroyable qui est à la retraite maintenant, qui n'exerce plus, mais qui était quelqu'un d'humainement formidable. Et je sais que ça m'a énormément aidée dans l'annonce, la façon dont il m'a parlé de la maladie. et la façon dont tout de suite il m'a donné de l'espoir dans sa façon de me parler, les mots qu'il a utilisés, le fait il a été très précis dans ce qu'il répondait à mes questions, puisque je suis quelqu'un qui pose des questions. Il y a des personnes qui ne veulent pas savoir, et c'est normal. Moi, je fais partie des personnes qui veulent savoir pour mieux gérer. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. Mais ses réponses, il répondait à toutes mes questions, déjà, vraiment de façon très ouverte. Mais surtout, il était très à l'écoute. Et il m'a dit aussi ce que je pouvais continuer de faire dans ma vie, et qu'il ne fallait pas que j'arrête de faire ces choses-là, que c'était important et essentiel. Et ça, je sais que c'est primordial quand on annonce une maladie à quelqu'un, d'avoir ces paroles positives, parce que c'est vrai, déjà, d'une part, c'est vrai, et que les mots vont avoir un impact énorme dans la façon dont la personne, après, va aborder, gérer sa maladie, et sa vie, du coup, tout ce qui va se passer autour.
Et il t'a dit quoi ? Que tu pouvais continuer de faire quoi, justement ?
Bah, par exemple, il me parlait des précautions. Donc, par exemple, par rapport au soleil, à la chaleur, etc. Les expositions au soleil ou à la chaleur, quand on a une sclérose en plaques, il faut les éviter, normalement. Il faut faire très attention. Parce que la chaleur, l'augmentation de la température du corps, peut avoir un impact sur soit la poussée qu'on a eue, la réactiver, ou voilà, en tout cas créer, avoir des conséquences par rapport à l'augmentation de la chaleur corporelle. Mais tout en me disant, puisque j'ai aussi des origines martiniquaises, mon rêve c'est d'aller en Martinique depuis longtemps. Et du coup il le savait puisqu'on en avait parlé, et il me disait, mais pour autant, il faut surtout pas vous empêcher de faire votre voyage en Martinique. Simplement, vous prenez les précautions. Pas d'exposition trop longue au soleil. Quand ils me disent, quand je vous dis de ne pas aller au soleil, c'est pas ne marchez pas au soleil, c'est
rester
une heure. Voilà, c'est ça. Donc tout faire, mais avec une autre conscience et une autre mesure, en fait. Voilà. Donc le fait de dire les choses, mais tout en disant à côté. De continuer aussi de faire des choses que vous aimez. Ne vous restreignez pas si vous avez des projets. Bah, bien entendu, il faudra faire très attention à votre fatigue. Vous reposer le plus possible. Éviter le stress. Même s'il me disait que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident dans une vie. Il y a toujours des situations qui stressent. Mais éviter le stress. Me faire aider éventuellement par un suivi, une psychothérapie, etc. Voilà, donc c'était en fait, il disait les choses, mais tout en
offrant des solutions,
des solutions et des voilà.
Il a été vraiment bienveillant pour le coup, et
complètement.
Il a dit
pas alarmiste.
Il y a ça, mais ça n'empêche que vous pouvez faire ça.
Tout à fait, ouais.
C'est vrai que c'est bien.
Oui, c'est bien.
Et c'est rare.
Et c'est rare. Beaucoup de. C'est pour ça que j'insiste, parce que c'est rare, parce que bah, depuis voilà, j'ai entendu beaucoup de choses sur la façon. Dont certains médecins ou spécialistes annoncent des maladies, et c'est pas du tout un jugement ou une critique, c'est juste que je pense qu'ils sont dans leur voilà, comment, dans un quotidien où ils sont habitués, où ils doivent aussi se protéger émotionnellement, et donc parfois les mots, les paroles sont pas toujours délicats. Ils pensent pas toujours aux impacts que ça va avoir sur les personnes, sauf que ça en a, en fait.
Mais évidemment. Bien sûr. Et du coup, toi, comment tu as démarré cette nouvelle vie avec la sclérose en plaques ?
Alors, comment je l'ai démarré, en fait, après un temps de, on va dire, de digestion, qui a pris quelques mois, parce que c'est une maladie, comme c'est une maladie qui arrive soudainement et avec des effets physiques assez violents. Donc il y a la peur, j'en parlais tout à l'heure, la peur qui est là. Et après, on a l'impression de vivre un peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il y a à gérer, en fait, cette peur. La plupart des personnes, quand on leur annonce une maladie, enfin pour beaucoup, et ce qui est normal, bah le moral est touché, évidemment. Le moral est touché, la fatigue intense, parce que c'est une maladie qui fatigue énormément. Mais quand je parle de fatigue, c'est vraiment dans une journée, par exemple, vous allez mettre du linge à la machine ou essayer de passer l'aspirateur, ou je ne sais pas. Et après, c'est comme si vous aviez fait vous aviez travaillé pendant 12 heures et qu'il fallait vous reposer. Et vous n'avez pas le choix, le corps de toute façon ne répond pas. Il faut vraiment dormir, se reposer. Et ça, c'est vraiment le premier handicap vraiment qu'on vit.
Ok, la fatigue.
Et qu'il y a à gérer. La fatigue extrême et très rapide. Donc, il peut jouer sur le mental. Donc, évidemment, on peut commencer à moins avoir moral, à déprimer, etc. Et les médecins, dans ces cas-là, vous proposent, quand le moral commence à être touché, hein, qu'on commence à rentrer dans un profil de dépression, de proposer des antidépresseurs. Alors, moi, j'ai toujours eu un refus et un rejet par rapport aux antidépresseurs. Tout simplement par la peur, une autre peur, mais de l'accoutumance, en fait.
Bien sûr.
Même si je sais que dans certains cas, c'est nécessaire et utile. Mais mon médecin avec qui, j'ai changé beaucoup aussi par rapport à ma maladie, etc., m'avait aussi conseillé de voir une psychothérapeute. Voilà, si je ne souhaitais pas prendre des antidépresseurs, en tout cas de me faire aider, de trouver une aide, ne pas rester seule. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Okay. J'ai choisi la psychothérapie et ça a été un choix vraiment salvateur. Et une nouvelle fois, je pense que j'ai eu la chance aussi de tomber sur la psychologue qui me correspondait en fait par rapport à son approche, sa personnalité, son écoute, où je me suis vraiment sentie en confiance très rapidement. Et là, ça a vraiment été une aide. Et du coup, pour la façon dont j'ai géré ma maladie dès le départ, il y a vraiment eu l'arrivée de cette personne dans ma vie.
Ouais.
Mon médecin généraliste aussi, qui était quand même très présent et très à l'écoute quand j'avais besoin. Mon neurologue également, même si on les voit beaucoup moins souvent. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est l'écriture, puisque j'écris depuis toujours. L'écriture, ça fait partie de moi, en fait. Ouais. Les mots font partie de moi. Mais du coup, à ce moment-là, l'écriture m'a vraiment permis d'extérioriser ma tristesse, ma colère aussi, puisqu'il y a de la colère, hein, évidemment, quand on se sent handicapé. Parce que là, si on parle du terme handicap, c'est des handicaps invisibles. Mais on se sent handicapé quand on ne peut plus travailler, en arrêt de travail, on n'a plus de rôle social. Cette sensation d'être coupé du monde, de la normalité, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, normalité, c'est-à-dire que je peux aller et venir sans être fatiguée plus que nécessaire et je peux faire ce que je faisais avant comme d'habitude. Voilà, on n'est plus du tout dans ce contexte, en tout cas pendant un certain temps. Et donc tout ça m'a permis de commencer à mettre des choses en place pour gérer au mieux mon quotidien par rapport à cette maladie. Les symptômes que j'ai eus... Alors, j'ai eu un traitement.
T'as eu un traitement, ok.
Voilà. Et les symptômes que j'ai eus, au bout de quelques mois, se sont... ça s'est amélioré, en tout cas.
Okay.
Voilà. J'ai pu retrouver la mobilité de mon bras, de ma main droite... j'ai gardé des symptômes sensitifs, donc de sensations de mains gonflées, de douleurs aussi à certains moments quand j'étais trop fatiguée.
Ah,
en fait, la fatigue réactivait les sensations, etc. J'avais aussi d'autres, puisque moi c'était des symptômes paresthésiques, donc les paresthésies c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire à certains moments des sensations de pic, de coupure, de choses comme ça, soit dans les jambes, les bras, etc.
Répétitif ou une fois?
Genre... Ça peut être répétitif, mais c'est assez rapide.
Voilà. Ouais,
ça dure pas une demi-heure. Quoi.
Non, ok.
Voilà. C'est assez saccadé, on va dire. Voilà.
Ok.
Donc voilà. Et pendant cette psychothérapie, finalement, j'ai assez rapidement, j'étais même très surprise, j'ai assez rapidement accepté la présence de la maladie.
D'accord.
Mais l'écriture m'a beaucoup aidée aussi. Voilà. J'ai écrit notamment j'ai écrit un poème sur cette maladie. Je lui ai écrit à cette maladie. Et je l'ai appelé ma colocataire.
Ok.
Et j'ai commencé à l'imaginer vraiment comme une colocataire avec qui on devait mettre des choses en place toutes les deux.
Pour vivre ensemble.
Pour vivre de façon harmonieuse ensemble. Et que, tant que je te casse pas les pieds, c'est-à-dire que... j'en fais trop, je me surfatigue, etc. Et puis là, toi, tu me rappelles à l'ordre. Et puis surtout, tu as des choses à regarder, à voir, à comprendre. Et tant que tu le feras pas, bah, je serai là pour te... Voilà. Et je l'ai vraiment comprise comme ça. Donc, j'ai commencé à, voilà, à transformer la maladie comme une colocataire. Mmh. Et donc, je ne me sentais plus... Je me définissais plus comme malade.
Ok.
Je me définissais comme Isabelle qui
en a coloc.
Une maladie. Voilà.
Qui a une maladie.
Qui okay. s'est installée. Voilà. Mmh. Qui s'est dit, tiens, je vais venir faire un petit tour chez Isabelle là, pendant quelques mmh. temps. Parce que bah, elle a des choses à voir, à regarder, mais ça, je vous expliquerai pourquoi je okay. dis ça après.
Et du coup, tu penses, donc la maladie est venue en coloc avec toi pour te ouais. faire comprendre des choses, oui. Pour te transmettre des messages, on va dire.
Oui.
Comment, à partir de combien de temps tu t'es dit que la maladie n'était, enfin, que la maladie n'était pas qu'une maladie justement, que tu t'es dit que tu n'étais pas que malade, mais que justement, ça a duré combien de temps tout ce process entre le moment où t'as appris que t'étais malade et ouais. le moment où tu es devenu en t'es arrivé en coloc.
Oui. Ça a pris entre un an et demi et deux ans.
Oui.
À okay. peu près. Entre un an et demi et deux ans. Et donc je continuais donc de faire mes séances avec ma psychologue.
Mmh.
Donc, il y a cette acceptation qui est arrivée. Et puis, à un moment donné des séances, il s'est passé quelque chose sur une séance de violent aussi, mais du coup pour une autre raison, de complètement inattendu.
D'accord.
Donc, pendant l'échange qu'on avait avec la psychologue, j'ai un souvenir en fait du passé qui est remonté, un souvenir de mon enfance. Mais curieusement, c'était un souvenir sans être vraiment un souvenir, parce que je savais, c'était vraiment très bizarre comme sensation, parce que je savais qu'il s'était passé cette chose. Mais c'est comme si les années qui ont passé après, ça s'était mis dans un petit coin. Et que, je le savais, mais voilà, j'ai continué ma vie normalement. Voilà.
Une forme de déni, peut-être. Un peu. Enfin, tu l'as mis de côté. Quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a une forme de déni, certainement. Mmh. Oui, par protection.
Ouais.
Et en fait, sur une séance, il y a ce souvenir donc, d'un abus que j'ai subi pendant mon enfance, donc de violence sexuelle intrafamiliale, qui est remonté à la surface, mais de façon vraiment assez violente, en fait.
Okay.
Mais la violence, c'était à la limite, pas le... Ce qui s'est passé en soi, c'est tout ce que j'ai réalisé et tout ce dont j'ai pris conscience par rapport à ce qui s'était passé. Mais ce qui s'était passé juste après, dans la découverte de ces faits, par ma mère notamment, et de tout ce qui s'est passé après, dans le secret, en fait.
Le contexte,
voilà. Et c'est plus l'impact du contexte qui m'a vraiment bouleversée et qui a surgi vraiment j'ai l'impression de... C'est comme un volcan, en fait.
Ouais.
Voilà.
Une forme d'abandon dans le...
Ah oui, oui, dans oui. La... oui, oui. Ouais, ouais.
D'accord.
Ouais.
Et quand cet événement t'est revenu au visage pendant cette séance, comment t'as lié, justement... Parce que là, tu es arrivé à parler de cet événement par rapport à la sclérose en plaques.
Oui.
Comment est-ce que tu as lié ces choses, en fait? Parce que, c'est pas évident non plus.
Non, pas du tout.
Tout simplement.
Non, pas du tout. Alors, comment j'ai lié ces choses, ça, c'est pas arrivé, évidemment, tout de suite, du tout. Mmh. Puisque après, j'ai fait tout ce travail. Ce qui s'est passé pendant cette séance, ça a eu des impacts énormes, des conséquences énormes après dans ma vie.
D'accord.
Puisque j'ai commencé à revendiquer et à parler de ce qui s'était passé, d'en parler à ma famille, d'en parler à mon conjoint. C'était comme si toute cette période... se représentait à moi, mais vraiment en face de moi, et qu'il fallait que je la regarde, en fait, et que je l'assume d'une certaine façon et que je l'intègre. Voilà. Et que j'exprime ma colère, parce que j'avais une colère énorme, plus d'autres sentiments évidemment qui sont liés à ces violences, mais en fait j'ai pas fait le lien tout de suite. Parce que tout le travail que j'ai fait pendant cette période, bah, ça a été de, du coup, de parler à mes parents, d'en parler à mon père aussi, puisque mon père n'était pas au courant de ce qui s'était passé. D'accord. Puisque ma mère avait gardé tout ça secret pendant toutes ces années. Donc ça a été une période très difficile aussi dans mes relations avec mes parents, mais où je n'ai rien lâché. Parce que moi, ce qui était... En fait, ce que je voulais, ce qui était très important pour moi pour pouvoir me réparer de ça, c'était qu'il y ait un acte de justice, en fait. Et ma recherche, c'était d'avoir ce regard de justice de la part de mes parents, bien entendu.
Bien sûr.
Donc, ce que j'ai recherché, mais que je n'ai pas eu, que je n'ai pas obtenu, ni de la part de ma mère. Ma mère était complètement effondrée et très en colère contre moi.
Ah oui.
Bien sûr, très en colère contre moi, puisque je révélais quelque chose qui devait ne pas être révélé.
Mais oui, en secret.
Et qui bouge, qui bouge tout dans une famille. C'est quelque chose qui a des répercussions énormes. Donc, mon père, je pense que... Mais ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps.
Okay.
Du coup, ça, c'était il y a plus de 15 ans, donc, tout ce dont je parle là. Donc, il y a eu un énorme chemin depuis. Mais à l'époque, mon père n'a... Je pense qu'il a été en état de sidération.
Ah ben, oui.
Complètement. Il y avait comme une non-réaction, aucune émotion, quelque chose de complètement décalé.
Il a fait un figement, quoi.
Ouais, complètement. Et après, il ne m'en a plus reparlé. Et moi, ce que je cherchais, c'est qu'il s'adresse à cette personne juste pour lui dire qu'il était au courant et qu'il lui dise quelque chose, en fait, par rapport à moi. Et ça ne s'est pas fait. Et moi, c'est ce que j'attendais. Et comme je n'ai pas eu ça, je suis passée à une étape supérieure. Donc, je suis allée déposer plainte, parce que c'est possible des années après de déposer plainte. Et ma recherche, ce n'était pas du tout de faire un procès ou quoi que ce soit. Enfin, ce n'était pas ça. Moi, je voulais cette empreinte de la justice, que la personne sache que j'ai déposé plainte, que je reprenne quelque part mon pouvoir,
oui,
en fait.
Ça.
Que je me réintègre, moi, dans mon intégrité, en fait. Ce que j'ai pas eu des personnes, on va dire, les premières dont on l'attend, c'est ses parents. Mais voilà, j'ai compris il y a quelque temps pourquoi des parents, certains parents n'arrivent pas à faire ça. Je le comprends vraiment maintenant. Mais du coup, j'ai fait cette recherche donc, par ce biais-là. Et là, je l'ai obtenue. Donc, j'ai fait un dépôt de plainte. J'ai été entendue. J'ai été écoutée. J'ai été prise en compte. Et ça m'a fait un bien énorme, mais vraiment... Et la personne a été convoquée. Donc, j'en ai été informée. Il a été convoqué, puisque dans ces cas-là, la personne est convoquée.
Ouais.
Et on lui lit le procès-verbal de la plainte, le dépôt. Ouais. Et donc, après, lui, il est interrogé ou doit confirmer ou non, etc. Mais il a été informé que je ne voulais pas donner suite. C'était vraiment, je voulais qu'il soit confronté à des représentants de la justice, ou en tout cas, quelqu'un qui le mette face à sa responsabilité. Par rapport à ses actes. Voilà. Et ça a été fait. Et à partir de là, pour moi, ça a été vraiment un énorme acte de réparation, en fait. Je sais que pour les personnes qui ont subi des violences sexuelles, puisque j'ai animé des groupes, je passe à autre chose, mais j'ai animé des groupes pendant 2 ans au sein d'une association Armand pour des victimes de violences sexuelles intrafamiliales et proches. Je sais que cette réponse-là n'est pas forcément... elle va pas apporter une réparation à toute personne qui a subi des violences, puisque chacun réagit différemment. Chacun a des besoins différents par rapport à la réparation. Mais en tout cas, c'est pour moi, c'est pour ça que je témoigne, parce que ça a été ce regard-là a été vraiment extrêmement important dans la suite, en fait.
Ok.
Et au niveau de mon... C'est pour ça que je fais le lien avec la sclérose en plaques. C'est qu'à partir de ce moment-là aussi, déjà, quand j'ai accepté la maladie, j'ai vu des changements à l'intérieur de moi. J'ai aussi appris à être très à l'écoute de mon corps. Très à l'écoute de mon corps, à faire très attention à la fatigue. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose que je veux transmettre. C'est de vraiment prendre en compte le repos. Mais le repos accepté, pas le repos qu'on subit.
Okay.
Parce que quand on se dit « Ah, il faut que je me repose, ça me casse les pieds », en fait, les bienfaits, ils ne sont pas là, en fait.
Oui, tu penses.
Mais oui.
Et tu t'inquiètes.
On laisse pas le corps faire son travail, se régénérer, etc. Que quand on est dans une acceptation, du coup, le repos, il est extrêmement bénéfique, en fait. Et moi, le repos, c'est quelque chose que je pratique toujours aujourd'hui. Je fais toujours des siestes aujourd'hui. Et je sais que ça, c'est quelque chose, que c'est un excellent médicament.
Ouais.
Du coup, je vais le relier à un médicament. Le repos, les siestes, le fait de se coucher plus tôt. Bah, peut-être que oui, au départ, ça me casse les pieds de me coucher à 21h, alors que moi, j'avais l'habitude de me coucher à minuit parce que je lisais, parce que je regardais une série, parce que... Mais c'est nécessaire, en fait. Et juste des petits gestes comme ça, qui sont finalement simples, qui passent pas par des choses violentes, agressives, de traitement, etc. Mais ça, c'est énorme, en fait, pour le corps. Je parle vraiment de la réparation du corps, des cellules. Notre corps, il est vivant. C'est des cellules qui sont en mouvement permanent et qui sont intelligentes aussi.
Oui.
Donc, vous pouvez aussi parler à votre corps, lui porter des intentions en ayant confiance en lui et en ses capacités de guérison, en fait. Et c'est tout ça que j'ai commencé à mettre en place. Et en fait, j'ai commencé à me rendre compte qu'avec le repos, etc., je commençais à pouvoir refaire plus de choses, plus longtemps. Et dès que je ressentais la fatigue arriver, bah, je me reposais à nouveau. Parfois, le naturel revient au galop. Et comme j'aime bien faire 50 000 choses, quand je me sentais en forme, bah, j'allais trop loin.
Ouais.
Et puis, à un moment donné, ma colocataire me faisait une pichenette en disant « Oh,
stop,
là, tu te calmes. »
Ouais.
Voilà. Mais ça, c'est un travail de plusieurs années. Mais c'est possible, en fait.
Ça demande beaucoup de patience.
Ça demande de la patience, ça demande beaucoup aussi de foi, de croire en soi, de croire en... de toujours garder l'espérance que ça va aller mieux, que moi je peux transformer ce qui m'arrive et qu'en comprenant ce qui m'a fait du mal, en fait, vraiment très loin, en profondeur... Quand on arrive à comprendre ça, à libérer ça, mais c'est énorme. Parce qu'on le ressent dans son corps aussi. C'est au-delà des paroles, au-delà... Il se passe quelque chose dans le corps, en fait. C'est comme si on laissait sortir quelque chose qui était présent, là, à l'intérieur, quelque part, et qui avait pris sa place, et qui avait grossi, et qui du coup, avait eu un impact sur tout, et qui avait déclenché cette maladie. Et donc, oui, j'ai fait ce lien, parce que j'ai vu les... J'ai constaté l'évolution, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai constaté vraiment les changements au niveau de mon corps.
Et la conscientisation de ton traumatisme a amélioré aussi.
Bien sûr.
Ton.
Oui.
Ok.
Oui. Oui.
Est-ce que par la suite, parce que parfois, il y a des liens entre des situations par rapport à tout ce qui est. Transgénérationnel, psychogénéalogie et tout. Est-ce que en faisant des recherches, vu que tu as fait des recherches, et qu'en plus c'était très bien accompagné par tous tes médecins, psy et neuro, est-ce que tu as fait des liens entre ce traumatisme d'enfance, les abus, et cette maladie? Ou pas?
Entre ces traumatismes d'enfance
et puis le lien
généalogique et ça par contre ça c'est des informations que j'ai eues il y a 2 ans à travers l'histoire de ma mère donc je l'ai appris il y a 2 ans qu'elle-même a vécu des violences, alors pas des violences sexuelles intrafamiliales mais des violences conjugale. C'est pas une personne à qui elle a été mariée. En tout cas, elle a eu une relation dans sa vie quand elle était jeune avec une personne extrêmement toxique où elle a subi de l'enfermement, elle a subi des violences psychologiques, violences sexuelles. Et je l'ai appris il y a 2 ans.
D'accord.
Voilà. Au cours d'une conversation avec elle. Et ça évidemment, ça m'a fait comprendre... aussi énormément de choses, même si j'avais déjà compris des choses avant. J'avais compris des choses avant par rapport au... Moi, je suis moi-même maman. Donc, à un moment donné de toute ma thérapie, j'ai commencé à me mettre à la place de mes parents, en fait. En okay. me disant, mais moi, je suis maman aujourd'hui. Si j'apprenais une telle chose, moi, aujourd'hui, comment, en fait, comment je réagirais ? Je pense qu'il faut... Il n'y a vraiment aucun jugement à porter sur, sur les... Quelles que soient les réactions des parents face à ce genre de violence, parce que c'est très complexe. Ça, pour des parents, c'est l'horreur, en fait, de découvrir ce genre de choses. Et d'arriver à affronter ça, c'est de, d'accepter que, ben, en fait, ma vie, elle ne va plus du tout être la même. Je vais avoir le regard de tout le monde sur ce qui s'est passé. Pourquoi tu n'as rien dit pendant toutes ces années ? La famille, les amis, les voisins, enfin... La peur que tout le monde le sache. Il y a aussi ce que ça remet en question dans la personne en tant que parent. Moi, je n'ai pas su protéger mon enfant. Ouais, j'ai pas envie de reconnaître ça. C'est trop dur, c'est trop violent. Je préfère être dans le déni que d'assumer ça, en fait. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de... C'est tellement... c'est quelque chose qui est tellement dans l'intime que... Voilà, c'est vraiment très compliqué. Et en étant maman moi-même, c'est quelque chose que j'ai réussi à comprendre. Voilà.
Du coup, tu as pu comprendre pourquoi ton père avait été dans le figement ?
Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Et en plus, mon père est quelqu'un de... Mais totalement à l'opposé de ce genre de... C'est quelqu'un d'extrêmement respectueux. Extrêmement respectueux. Il nous a appris le respect, vraiment. Le respect de l'autre, la politesse. Il a un code moral très... voilà, il n'a jamais fait un pas de travers. Enfin, le respect, je pense que c'est ce qui le définit le plus, en fait. Le respect de tout, en fait. Et donc, d'apprendre... Enfin, là, c'était un... Au-delà, je pense, de ses capacités d'absorption, enfin émotionnelle, etc. Et en plus, ses filles sont importantes, c'est ses filles.
Bien sûr.
Ce sont ses filles. Et du coup, toucher à l'intégrité de ma fille, je pense que ça l'a complètement dépassée, en fait.
Et pour revenir, du coup, sur ton processus d'amélioration de ta maladie.
Oui.
Une fois que tu as compris que le sommeil était bénéfique, que la prise de conscience, l'accompagnement psychologique, etc.
Oui.
Ensuite, comment ça s'est passé pour... comment ça a évolué ensuite ? Il y avait de moins en moins... Comment ça a évolué,
quoi ? Au niveau des symptômes de mon corps. En fait, ça commençait à se... comment dire ? La fatigue était moins, commençait à être un peu moins présente. Ça s'est joué sur vraiment des années. Fatigue moins présente. J'ai aussi pris des décisions dans ma vie. J'ai fait des choix de vie. Parce que, c'est important de le dire aussi, c'est que c'est quelque chose qui vous change radicalement. Vraiment. Dans la façon dont on aborde la vie. Dans ce qu'on refuse d'accepter. Quand on est une personne... empathique, à l'écoute des autres, qui se met souvent plutôt en retrait qu'à s'affirmer. C'est aussi là pour nous apprendre ça, en fait. C'est-à-dire, moi, je refuse certaines choses. J'apprends à dire non. J'apprends à me respecter. J'apprends à faire des choix conscients. J'apprends à ne plus rester dans une situation des relations toxiques, quitte à ce que les personnes ne me comprennent plus, ne me reconnaissent plus. Mais en fait, c'est pas que vous me reconnaissez plus, c'est que là, moi, j'arrive à être moi et à être de plus en plus moi. Et qu'en fait, la personne que vous connaissiez avant, c'était pas vraiment moi. C'est-à-dire que moi, je m'adaptais à vous, toujours, toujours et encore. Et ça permet ça aussi sur soi. Ça pousse vraiment à ça et donc de prendre des décisions. Donc, j'ai quitté mon ex-mari, le père de mes enfants. J'ai repris ma vie. J'ai fait d'autres choix professionnels. Il y a l'écriture qui a émergé aussi dans ma vie sous forme de poésie. Enfin, j'ai écrit. Voilà, depuis, j'écris toujours sous différentes formes. Mais voilà, ça continue en tout cas l'écriture. Et au niveau de mon corps, en parallèle, la fatigue était moins présente. Je m'écoutais de plus en plus. Donc, quand on s'écoute de plus en plus et qu'on accepte de se reposer consciemment, en sachant que c'est bon pour soi, on le fait de plus en plus. Mais le corps, du coup, va de mieux en mieux. Et mieux on va, plus on arrive à réaliser nos projets. Plus on réalise nos projets, plus on se sent heureux. Mmh. Et plus on se sent heureux. Et enfin, voilà, ça fait... Et tout en... Après, quand je dis tout ça, hein, la vie, elle continue, hein, avec des expériences malheureuses à certains moments, à nouveau à gérer. Mais ce qui change, c'est qu'on est... On est plus fort, en fait.
Plus aligné.
Beaucoup plus aligné pour gérer ce qu'il y a à gérer. Et on comprend beaucoup mieux aussi toutes les implications et les liens entre tout, en fait, entre toutes choses. Voilà.
En tant qu'observateur, on devient autant observateur de soi que du reste du monde.
Exactement. C'est complètement ça, Lisa.
Et d'un point de vue beaucoup plus pratique,
oui.
T'as continué pendant combien de temps à être et suivi par une psychothérapeute, mais aussi à prendre ton traitement, etc., etc. Parce que j'imagine que ça n'a pas été... Enfin, c'est pas parce que t'as senti que tu étais moins fatiguée que t'as arrêté de prendre
bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, la psychothérapie... alors, j'ai suivi la psychothérapie pendant 2 ans, donc au début. Et j'ai revu ma psychologue quelques années plus tard, à un moment de ma vie où j'avais besoin. Et du coup, j'ai su, du coup, la contacter pour me préserver, pour faire ce qu'il fallait, pour pas justement laisser les émotions grandir. Voilà, j'ai anticipé. Donc, je l'ai revue quelques années plus tard, pendant à peine quelques mois, en fait. Hein. C'était vraiment pour quelque chose de...
bien précis, quoi.
De bien précis, voilà, c'est ça. Après... Le traitement, je l'ai eu pendant plusieurs années et j'ai commencé il y a à peu près 4 ans, 4 ans ou 5 ans, où je me sentais vraiment, mais vraiment très très bien, vraiment, sur différents plans, corporels, psychologiques, émotionnels, etc. Et je sentais à ce moment-là que j'avais envie, en fait, et ça faisait un moment que je voulais le faire, de commencer à diminuer mon traitement.
D'accord.
Alors là, c'est quelque chose de très personnel, hein, que je ne conseille pas du tout. Voilà, il faut le faire de façon très consciente et c'est très personnel.
Bien sûr.
Mais moi, j'ai commencé à le faire dans mon coin, on va dire, sans en parler ni à mon médecin ni à mon neurologue.
Ok.
À diminuer, mais vraiment de façon très, 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 très faible, en fait, mon traitement. Et là, au bout d'un mois, j'en ai parlé. Voilà. Je suis allée voir mon médecin, je lui ai dit ce que j'avais mis en place. Mais avant d'aller le voir, je voulais voir comment je me sentais.
Bien sûr. Voilà. Tu as vraiment suivi le processus de sevrage
Oui.
Tranquillement, quoi.
Complètement. Complètement. Qui s'est fait sur un an, à peu près.
Mais en fait, c'est fou, parce que c'est quand même une sacrée décision d'envisager d'arrêter un traitement pour une maladie qui est auto-immune et qui paralyse.
Qui peut
paralyser, paralyse dans le sens où on ne fait plus sa vie comme on a envie de la faire.
Tout à fait.
Et envie de la vivre.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est quand même une sacrée décision qui peut faire peur. Est-ce que toi, tu as eu peur d'arrêter ton traitement ou pas?
Non.
Tu avais confiance.
Si j'avais eu peur, j'aurais pas du tout pris cette décision. Et après, c'est une décision qui a mûri pendant... Ça faisait 1 an et demi, 2 ans. J'y pensais, mais je savais que c'était pas le moment. Mais j'y pensais. Parce que je voyais mon évolution aussi. Et j'y croyais fortement, en fait. Et je croyais vraiment énormément au pouvoir de la pensée positive, puisque j'avais mis énormément de choses en place et que je voyais les résultats. Donc, quand on voit les résultats, on continue de se faire confiance. Je commençais aussi à m'intéresser... alors, je me suis formée à l'hypnose il y a 5 ans. C'est vrai que pendant cette formation, j'ai découvert Milton Erickson. Donc, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne.
OK.
Et Erickson, c'est un psychologue qui a développé cette approche de l'hypnose pour faire court, il croit fortement à la capacité de la personne à utiliser ses propres ressources internes pour sa propre guérison.
D'accord.
Ce qu'il a fait lui-même pour lui-même, puisqu'il était atteint de... Je ne me rappelle plus du nom de cette maladie.
Je regarderai. Mince, si
oui, voilà.
Je mettrai
oui,
un petit...
Oui, je me rappelle, je l'ai là, mais ça ne vient pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'il a pratiqué, lui, même adolescent, en fait. Mm-hmm. Donc, il pratiquait des autosuggestions.
OK.
Pour pouvoir gérer au mieux sa maladie. Il a eu des effets très bénéfiques, et c'est comme ça qu'il a créé du coup son approche et développé tout ce qu'il a développé après à travers ce format d'hypnose, donc d'auto-hypnose, puisqu'il pratiquait l'auto-hypnose. Mm-hmm. Et en fait, quand je me suis formée en hypnose, j'ai découvert que, en fait, j'étais très surprise parce que dans des choses que j'ai apprises, mm-hmm. j'ai découvert que finalement, c'est des choses que je faisais sans m'en rendre compte, de mm-hmm. me parler à moi-même. Okay. De parler à mon corps, le pouvoir de la pensée positive, comment on aborde les émotions, comment on les comprend, qu'est-ce que cette émotion vient me dire, qu'est-ce que je dois comprendre à travers elle et qu'est-ce que je dois libérer. Voilà.
D'accord.
Et pour que ça soit beaucoup plus léger à l'intérieur de moi Oui, voilà, aligner, tous ces mots.
Et quand tu es arrivée chez ton neurologue ou ton médecin traitant et que tu leur as dit que tu avais drastiquement diminué ton traitement,
oui.
Comment ils ont réagi ?
Alors, mon médecin traitant, alors après, il me connaît depuis très longtemps, il connaît ma personnalité, ma façon de réagir aux événements aussi, parce qu'il y a aussi ça aussi derrière, on est tous différents aussi.
Bien sûr.
Voilà. Mais en fait, il a eu un petit moment de qui voulait dire c'est pas très sérieux, quelque chose comme ça. Et puis finalement, après m'avoir écouté, voilà, je lui ai expliqué comment j'avais pratiqué, que je me sentais très bien, que j'avais quand même fait attention. Voilà, j'ai pas fait les choses comme ça n'importe comment, mais que voilà, que tout allait bien et que du coup je souhaitais continuer, mais avec là son accompagnement.
Bien sûr.
Et donc il m'a accompagnée pour la suite, et donc on a vraiment fait ça de façon très progressive, et à chaque fois je revenais le voir chaque mois en fait pour faire un petit point, et moi en fait j'observais que tout allait bien en fait. Alors quand je dis tout allait bien, c'est-à-dire que avec le traitement, quand j'étais très fatiguée à certains moments, puisque c'est quand même une maladie qui est là et qui continue d'être présente.
Oui.
Elle ne part pas. Juste qu'elle est endormie. Elle est apaisée. Elle est calme. Mais du coup, vers la fin, donc, même en prenant le traitement, quand j'étais trop fatiguée ou que j'avais accumulé du stress, etc., voilà, j'avais des petites récidives. Je pouvais avoir des récidives, mais ça, j'ai appris à les reconnaître aussi. Parce qu'au départ, quand on a la sclérose en plaques, alors moi j'ai eu aussi sûrement la chance de ne pas avoir d'autres poussées. J'ai eu une récidive de ma poussée quelques années après, mais pas d'autres poussées. Il y a d'autres formes, il y a vraiment des formes différentes. Il y a des gens qui ont des poussées très, très importantes et très invalidantes dès le départ. Des personnes qui font des poussées successives en très peu de temps. Moi j'ai eu une poussée, une récidive de cette poussée quelques années après, mais voilà. Donc. Je pense que ça m'a aussi permis de certainement d'en arriver où je suis.
Oui, bien sûr. C'était pas tout le temps avoir des poussées.
Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, je pouvais avoir en cas de fatigue, de stress, des petits symptômes. Donc c'est-à-dire des douleurs dans la main, dans l'avant-bras, enfin des choses, les paresthésies, des choses comme ça. Mais voilà, c'était pas méchant. En fait, j'avais appris à reconnaître ça et à ne pas avoir peur.
Bah oui.
Et en fait, la levée de la peur, c'est incroyable ce que ça procure aussi. C'est-à-dire, d'être dans la confiance, en fait. Dans la confiance de son corps, du fait que ça va pas être plus grave que ce que c'est et que ça a diminué et que ça va rester comme ça. Voilà. Et la peur, que ça soit qu'on est dans la peur ou la confiance, on ne sécrète pas les mêmes hormones. Quand je parlais, quand on parle de dépression, qui active ou qui, en fait, la personne est en baisse ou en manque de certaines hormones qui créent justement ce bonheur, la dopamine, l'ocytocine, etc. Il y a tout ça aussi que j'ai appris à comprendre. et à comment, comment on fonctionne aussi par rapport à tout ça.
D'un point de vue hormonal, comment créer...
Oui.
C'est... Comment créer, au final, c'est...
De façon naturelle, oui.
De façon naturelle, oui. C'est différente.
Tout à fait.
Oui. C'est shot.
Oui, c'est ça.
D'hormones.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment à travers ce qu'on aime, en fait. À travers ce qu'on aime faire, à travers ce qu'on aime écouter, ce qu'on aime manger, ce qu'on aime regarder, ce qu'on aime toucher. Enfin, à travers ce qu'on aime, c'est vraiment ce qui nous définit, en fait.
Tout à fait. Ouais. Et là, aujourd'hui... 2025, bientôt
oui,
2026.
Bientôt.
Quel est ton rapport à ta maladie? Cinq ans après avoir arrêté le traitement, diminué, arrêté?
Oui. Alors, mon rapport à ma maladie...
Ta coloc,
bah, c'est drôle. Bah, du coup, c'est parce que tu me poses cette question que je suis en train de réaliser quelque chose. C'est que... Je n'y pense plus, en fait.
Ouais, tu penses pas.
Non. Donc, je dirais que j'ai... Bah, vu que je n'y pense pas, il n'y a pas de rapport.
Oui.
mais c'est fou.
Oui, elle s'est vraiment endormie.
Elle s'est vraiment endormie. Et alors, je dirais que le rapport que j'ai à cette maladie, aujourd'hui, c'est que, justement, j'ai envie de transmettre ce témoignage, en fait, vraiment très important, pour donner vraiment des... en toute modestie, hein, vraiment, mais donner des pistes, en fait, des clés dans tout ce que moi j'ai mis en place, que j'ai compris, qui m'ont permis d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire, je me sens très bien dans mon corps, je suis en bonne santé, je me sens alignée, mais voilà, pour plein d'autres choses aussi que j'ai faites, mais vraiment, c'est transmettre ça, en fait, pour donner de l'espoir aux personnes. Et que ça soit... Là, on parle de sclérose en plaques, mais finalement, ça touche d'autres maladies. Hein.
Tout à fait.
Parce que, à travers l'association dont j'ai fait partie, donc j'ai suivi une formation très, très intéressante, très riche, donc sur les violences sexuelles intrafamiliales et leurs impacts, notamment sur, en termes psychologiques, sur le développement des personnes. J'ai été très surprise et en même temps, ça a validé toute la compréhension que j'ai eue pendant toutes ces années et tout ce que j'ai constaté dans ce que j'ai mis en place. Et j'étais vraiment choquée un peu parce que... Donc, il y a un médecin qui était présent, généraliste, et qui lui présentait justement toute la partie des impacts psychologiques, mais aussi sur la santé physique, en fait, des personnes.
Okay.
Et il y a toute une liste de maladies auto-immune et non auto-immune, dont les causes, donc là ça commence à être prouvé en fait scientifiquement, que dont les causes dans une grande partie de cas, pas dans tous les cas bien sûr, mais dans beaucoup de cas, les causes sont liées à des violences sexuelles qui ont été vécues dans l'enfance.
Ok. Et j'imagine... Enfin, pour revenir sur le côté héritage, j'imagine que c'est aussi des choses qui peuvent se transmettre de génération en génération.
Oui, mais il y a des...
C'est plus compliqué, mais d'un point de vue...
Oui.
Au niveau de l'épigénétique, on voit quand même qu'il y a, quand il y a un grave traumatisme chez quelqu'un...
Tout à fait.
Un grand-père, une grand-mère.
Oui.
Et on le voit dans les gènes, dans l'analyse des gènes au fur et à mesure des générations.
Oui, oui. Bon, on s'en rend compte, quand on décortique notre propre histoire, qu'il y a des reproductions, et dans toutes les familles, il y a des reproductions de certaines choses. Mais les violences sexuelles, intrafamiliales, et dans les personnes que j'ai accompagnées, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup observé et appris. Voilà, que les personnes étaient touchées, mais quand elles déroulent leur histoire... Bah là, le papa ou la maman a subi aussi, le grand-père ou la grand-mère, ou la tante ou les oncles. Enfin, il y a vraiment un... Oui, et c'est vraiment la personne qui était là, qui venait pour se faire aider, assister à des groupes de parole, parce que c'est très difficile, c'est très courageux de faire cette démarche. Mais c'est des personnes qui sont là pour arrêter, justement, ce processus de transmission. Et qui sont là, donc c'est une lourde tâche. Un rôle qui est très difficile, très fatigant, qui demande beaucoup de force, beaucoup d'énergie, Mais en fait, c'est cette personne qui doit, qui elle, règle pour elle-même, mais qui règle aussi pour ses enfants, et puis les enfants de ses enfants, etc.
Donc, pour le futur.
Pour le futur, voilà.
Et par rapport à cette formation que tu as faite,
oui,
et cette découverte, surtout oui, ces maladies liées aux abus,
oui,
est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont marqué pendant cette formation, où tu t'es dit, en fait, on soulève, pour l'instant, on commence à soulever un,
oui,
un mastodonte.
Oui, oui.
Et à plein de niveaux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont impacté, marqué
Pendant cette formation, oui, sur le... Alors, je le savais un peu, mais là, à ce point... Enfin, le regard de la société, le déni.
Ouais.
Le déni, on va dire, collectif, de ce format de violence, parce qu'on parle bien de violence sexuelle intrafamiliale.
Tout à fait, ouais.
Qui sont vraiment, même si les violences sexuelles voilà, sont terribles, hein, évidemment aussi, mais dans l'intrafamilial, on vient toucher à l'intime, en fait, et, ouais, et à des rapports, puisque souvent, c'est un papa ou maman aussi, puisqu'il y a des mamans aussi qui abusent, hein, même si on en parle moins des femmes, mais c'est, oui, une réalité aussi. C'est ce que j'ai découvert aussi durant cette formation, parce que j'en avais pas forcément totalement conscience, en fin de compte, qu'il y a aussi, quand même, on commence
à se rendre compte
qu'il y a beaucoup de mamans, voilà, qui abusent, mais c'est d'autres formes d'abus. Enfin, c'est,
d'accord.
Voilà, d'autres, puisque,
de d'autres manières.
D'autres, voilà, c'est ça, d'autres manières. Mais oui, il y a ce déni, en fait, de la société, qui m'a choquée. Enfin, je pensais pas que c'était aussi aussi imprégné et aussi aussi fort. Voilà, c'était à travers aussi des documentaires qu'on nous a montrés pendant cette formation. Il y a aussi toutes ces plateformes que j'ai découvertes aussi, tous ces réseaux souterrains qu'on ne connaît pas dans l'ombre, dans le sombre, hein, qui, bon là c'est sur d'autres formes de violence sexuelle, mais qui attirent du coup des jeunes gens, jeunes crédules. C'est normal quand on est jeune, on est crédule, puisqu'on a tout à apprendre de la vie. Donc, à 50 ans, on peut rester crédule sur certaines choses. Moi, je le reste encore. Et je suis très contente de le rester, parce que ça veut dire que mon enfant est très présent. Mon enfant intérieur est très présent et ça me va bien. Voilà.
Et juste pour terminer, par rapport à la sclérose en plaques,
oui,
c'est quand même... courageux d'avoir fait ce processus à la fois psychologique et intérieur, etc., face à une société qui aurait plutôt tendance à juste dire que t'es malade et que tu as juste un traitement à prendre et qu'aujourd'hui tu prends cette dose et dans 20 ans t'en prendras le double.
Oui.
Donc, comment toi... Enfin, on a déjà un peu compris, mais qu'est-ce que tu voudrais dire justement par rapport à ça, au fait que... En fait... La santé, on s'en rend de plus en plus compte, on en parle de plus en plus, c'est multifactoriel.
Oui.
Multipotentiel, pas du tout. Multipotentiel d'une certaine manière, dans la manière de la régler,
oui,
on va dire.
C'est ça. Oui.
Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager par rapport à ça, ou un conseil pour des gens qui, justement, se posent des questions, remettent en question leur rapport à leur maladie?
Oui. Ben, j'aurais vraiment que deux mots, en fait, c'est de retourner à l'amour de soi et d'être vraiment dans l'amour de soi. Mmh. Et quand je dis l'amour de soi, ça paraît simple comme ça, mais c'est quelque chose d'essentiel, de très fort. Et l'amour guérit tout. Mmh. Je suis quelqu'un de croyante. Je suis portée par ma foi et... C'est le mot que j'ai envie de dire, en fait, aux personnes. C'est de croire en elles, de croire en leur capacité d'auto-guérison. Et pour croire en soi et en sa capacité d'auto-guérison, il faut revenir à l'amour de soi, avant tout. Apprendre à être égoïste quand on ne l'est pas. Et quand je dis égoïste, entre guillemets, On le voit toujours comme quelque chose de péjoratif. Alors évidemment, il y a des personnes qui ne sont qu'égoïstes. Donc,
donc dans ces cas-là, c'est compliqué.
Voilà, je ne parle pas de ces personnes. Elles le sont pour certaines raisons aussi. Il y a toujours des explications à
bien
tout.
Sûr.
Enfin, pour moi, il y a toujours des explications à tout. Mais je parle des personnes justement qui ne le sont pas, qui ne le sont jamais, qui sont trop envers les autres, à donner pour les autres.
Dans le don de soi.
Dans le don de soi. Et soyez dans le don de soi pour vous-même, avant tout, tout en restant altruiste envers l'autre. Il ne faut pas que ça réduise ça, mais vraiment de se prioriser. Et déjà, ça, c'est une grande partie d'un chemin, on va dire, de pas vers une guérison qui prend du temps. Mais chaque pas apporte quelque chose, de toute façon. Chaque pas apporte quelque chose. Et voilà, de croire, vraiment.
Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit ou pas?
Une dernière chose à ajouter.
T'es pas obligée.
Non, je suis pas obligée, mais en tout cas, bah, je suis très heureuse d'avoir partagé mon expérience. J'espère que ça va apporter des réponses, des ouvertures, des prises de conscience,
des ressources,
des petites choses. Et puis, j'en parle puisque je l'ai créé il y a pas longtemps. J'ai créé un livret.
Ouais.
J'ai créé un livret justement qui parle de l'amour et de l'amour de soi. Donc c'est un livret d'écriture introspective, donc qui vous permet de vous, comment dire, d'aller vers vous-même, au cœur de vous-même, à travers tout ce que vous aimez.
Ok.
Voilà, et qui peut vous ouvrir aussi des portes. Des portes et des compréhensions, des choses dont vous n'avez pas forcément conscience ou dont vous ne vous doutez pas à l'intérieur de vous et qui peut vous apporter de la lumière dans votre vie. Je vais finir là-dessus. La lumière sur la lumière.
Ok. Merci Isabelle.
Merci Lisa. Merci.